Bonjour. C'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, oui.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
C'est pour ça que je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Délivrez-vous, votre rendez-vous mensuel sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires du sud de l'Eure. Je voudrais simplement commencer cette émission pour faire un petit coucou à Priscille et féliciter les heureux parents au nom de toute l'équipe. Aujourd'hui, nous avons Pauline
de Verneuil-sur-Avre, bonjour à tous.
Anaïs
de Verneuil aussi, bonjour.
Anne-Marie
d'Anville, commune nouvelle de Ministre.
Là, ils sont à côté, donc je les présente en même temps. Élie et Amélie.
De Bretagne.
Bonjour.
Et donc, notre chère Sandrine
de Bourthe.
On se contente d'une vie sans bonheur parce qu'on a peur du changement, peur que tout tombe en ruine.
Eh bien, je vous trouve un peu pessimiste, madame. Le changement de vie, qui ne s'est pas déjà posé la question? Qu'il soit volontaire ou non, il fait parler, ou devrais-je plutôt dire écrire. Vous allez voir que chacun d'entre nous a fait des choix très variés. Nous vous emmènerons au travers des chemins de la réinsertion, en passant par la case inattendue de la rébellion, mais également par les voies de la reconstruction. Et là, je sens comme un vent glacial qui laisserait à penser que l'émission risque de ne pas être très joyeuse. Détrompez-vous, les écrivains savent bien jouer avec nos émissions, les émotions, pour nous faire passer des larmes au rire. Pour illustrer cette émission, nous finirons par le mois du doc avec la médiathèque de Breteuil qui nous proposera un excellent documentaire sur la réinsertion. Bonne émission à tous!
Bonjour, je rapporte le livre que je vous ai emprunté.
Comment ça déjà?
Oh, je l'ai dévoré en une nuit. Vous avez quelque chose d'autre?
Depuis hier, non, hélas.
Tout ne fait rien. Je prendrai celui-là.
Celui-là? Mais tu l'as déjà lu deux fois.
C'est mon préféré.
Et justement, on commence avec un livre très drôle qui s'appelle Le gang des vieux schnicks. Alors, tout commence avec Gisèle, fringante retraitée, fière de son sens de la mode et friande de ses bons petits plats. En se rendant chez son boucher, elle est témoin d'une agression. Un sale jeune à capuche qui arrache le sac d'une petite vieille. Ils seront trois à courir. Trois retraités solitaires et marginaux, chacun à leur façon. En plus de la victime, ils formeront le gang des vieux schnocks. Parce que les petits vieux, ils en ont marre d'être invisibles aux yeux de tous et d'être les témoins passifs des travers de la société. Leur but ultime, coincer le jeune à capuche qui a dérobé Rosémée. Mais avant ça, ils comptent faire leurs armes un peu partout dans le quartier. Vengeance contre les commerçants grossiers, donner une bonne leçon aux vigiles racistes du supermarché, détournement des publicités omniprésentes dans les rues. Les griefs des vieux schnocks sont nombreux. Mais je ne vous ai pas présenté tout le gang. Donc Gisèle, la BCBG Cordon Bleu, c'est fait. Victor, le papy révolutionnaire, anti-société de consommation, anti-mondialisation, anti-américanisation de la culture et amateur de graffitis sauvages. Il y a aussi la victime de l'agression, Rosémée, douce mamie gâteau, toujours accompagnée de son petit chien ténueux Yuki. Et enfin mon préféré, Papy Ferraille, de son vrai nom Alfonso Seguro, vieil immigré espagnol au lourd accent et grand spécialiste de la récup et de la débrouille. Je vous propose une immersion au sein du gang des vieux schnocks avec un extrait. C'est le début d'un chapitre qui s'appelle Opération Charcuterie. Alors, quelle sera notre première cible? Demande Victor en se frottant les mains. Qu'il faut choisir quelqu'un qui nous pourrit la vida, suggère Papy Ferraille. Les flics? Non, pas la police, s'opposa fermement Gisèle. Respectons les forces de l'ordre. Et puis, c'est trop dangereux. Voyons, réfléchit Victor, qui nous harcèle, qui nous sabote le moral, qui nous pique les sous. Là, c'est coup ! Rugit Papy Ferraille. Toujours à demander des papiers qui on les a pas. Ah non, s'indigna Gisèle. Ils vont nous faire des tas d'ennuis, et puis nous n'aurons plus nos pensions. Non, toujours non, grommela Victor. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Les yeux de Gisèle étincelèrent derrière ses lunettes. Le boucher, susurra-t-elle d'un ton venimeux. Un sourire vengeur s'épanouit sur tous les visages. La boucherie-charcuterie de M. Bourguignon étalait ses vitrines sur une large portion de la rue commerçante. Elle l'écrasait de son opulence ses modestes voisins, les chopes du cordonnier et le tabac-presse où les habitants du quartier venaient acheter leur journal et jouer au loto. En passant devant ses étals de saucisses, de saucissons et de boudins dodus, de poularde en croûte, de quenelle de brochet et de salade niçoise piquetée d'olives noires, tout un chacun salivait. La réputation de M. Bourguignon dépassait même les frontières du quartier, et on venait de loin pour ses entrecôtes persillées, ses rillettes d'oie et son tendre vaudelé. Peu nombreux toutefois étaient ceux qui osaient pousser sa porte. Les prix atteignaient des sommets et l'accueil était revêche, pour qui n'affichait pas un porte-monnaie à la hauteur. Les personnes âgées, incapables de marcher ou de prendre le bus jusqu'au centre-ville, étaient bien obligées, quand elles voulaient s'offrir un steak haché, d'affronter le mépris de M. Bourguignon. Il les laissait poireauter à l'envi, s'enquérir d'un ton rogue. « Qu'est-ce qu'elle veut, la mamie ?» Leur coupait des tranches de jambon dans les vieux talons rassis et prenait un malin plaisir à leur rendre la monnaie avec des poignées de pièces de 10 centimes. M. Bourguignon était respecté autant qu'haï. Car à force de trinqueballer des carcasses de bœufs et des seaux de choucroute, il possédait une carrure d'Hercule. Sans parler de ses mains aux doigts comme des francs-forts et ses couteaux aiguisés comme des rasoirs. « Boule puante !» chuchota Mademoiselle Sol avec un sourire de grelot. Organiser une opération commandée d'eau leur prit tout l'après-midi. Merguez et Côte de Gascogne demandaient toutefois une digestion paisible et ils commencèrent par une petite sieste. Ils s'assoupirent au soleil, le sourire aux lèvres, et se réveillèrent plein d'entrain, chacun débordé d'idées. « Il faut qu'on ait des téléphonos pour s'éparler comme dans les films des gangsters », affirma Papy Ferraille. On se mettra les écouteurs dans les oreilles et ça passera pour ces appareils qu'ils ont, les sordos. »« Ok », dit Victor, en prenant des notes dans un carnet à dessin. « Moi, je connais un magasin de farce et attrape où acheter des boules puantes. J'irai demain. » Et voilà, ça vous donne une idée de la première opération du gang des vieux schnocks.
Les nouveaux délinquants.
Ça c'est vrai ça.
Ça c'est vrai, je fais bien l'accent, hein, je sais. Donc en formant le bien nommé gang des vieux schnocks, les quatre traités vont rompre leur solitude, redonner un sens à leur vie et bousculer celle d'autres. Donc ce roman de Florence Tinard a été publié chez Gallimard cette année. Et il est dans la veine des vieux fourneaux. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Les BD et le film de Wilfried Lupano, que je vous conseille. Là aussi, les personnages principaux sont des petits vieux à fort tempérament, mais grand cœur. Là aussi, l'humour est désopilant et mordant, sans être au détriment des émotions et d'un certain message. Et là aussi, notre société actuelle s'en prend plein la tronche, sans pour autant tomber dans le misérabilisme. Non. Tomber dans le moralisme plombant.
Ça va aller.
C'est la fin de mon texte, je suis fatiguée. Donc je vous conseille chaudement ce petit roman feel-good, hilarant et décalé, à dévorer dès 10 ans. Et cerise sur le gâteau, il est sélectionné pour le prix des dévoreurs dans liste 5e. Et ça, c'est notre gage de qualité. Amélie, je te donne la parole.
Oui. Alors, je vais vous présenter quelque chose qui est un peu moins hilarant, mais qui reste dans une note plutôt positive. Il s'agit d'un roman qui s'intitule « 1 000 000 de minutes » ou « Comment j'ai exaucé le souhait de ma fille et trouvé le bonheur en famille » de Wolf Kupper et qui est sorti aux éditions Actes Sud en 2018. Donc ce récit, c'est tout d'abord une histoire vraie, donc ça plaira aussi aux amateurs de témoignages. On y découvre Nina, une petite fille de 4 ans, qui est fâchée avec le temps. En fait, cette petite fille est différente des autres. Au quotidien, elle est très lente et elle ne parvient pas toujours à réussir ce qu'elle entreprend. Donc les médecins parlent de spécificités comportementales et cognitives. Bref, ils en savent pas trop, ils se mouillent pas. Mais cette petite fille, elle est débordante de vie, de rêves, d'imagination. Et c'est l'un des personnages les plus attachants de ce livre. On a aussi du coup son père, donc c'est le deuxième personnage le plus important de l'histoire, qui est un homme d'affaires qui a de grosses responsabilités professionnelles et qui est souvent absent. Mais du coup, par sa situation financière confortable, il assure un train de vie agréable à la famille. Un jour, lors d'une discussion, il y a Nina qui dit à son père « J'aimerais avoir 1 000 000 de minutes avec toi, rien que pour les jolies choses. » Et alors là, c'est le déclic. Son père se rend compte de son absence et à quel point sa fille a besoin de lui. Puisque c'est le souhait de Nina, toute la famille partira en voyage pendant 2 ans, ce qui représente le 1 000 000 de minutes de Nina. Et voilà que la petite famille, mère, père, Nina et petit Simon, qui a 6 mois, partent à l'aventure dans des pays qui permettent une grande liberté et la vie en plein air. Donc on voyage à travers la Thaïlande, l'Australie et aussi la Nouvelle-Zélande. Donc 1 million de minutes, c'est un roman qui nous fait voyager et découvrir des nouvelles cultures. Le père grandit avec sa fille, mais aussi au contact des autres et au fil de ses rencontres. Il va remettre en question sa vie et ses convictions. Malgré son poste à responsabilité et plutôt lucratif, il va se rendre compte que le besoin le plus important d'un enfant est d'avoir son père à ses côtés. Donc le lecteur assiste à un retour aux choses simples de la vie et à l'émerveillement. Donc le récit tourne principalement autour de Nina et de son papa. Ce sont les deux personnages du coup principaux. J'ai beaucoup aimé ce papa qui parle de sa fille avec douceur. On y sent tout son amour, l'envie de bien faire, la volonté de l'aider dans ses difficultés et aussi la tristesse qu'il ressent quand il se heurte parfois à des échecs. C'est un récit qui est quand même drôle, émouvant et ensoleillé. On est vraiment dans un périple loin des contraintes quotidiennes. Et c'est aussi le récit d'un cheminement intérieur de la famille face à la différence de Nina. Bref, un vrai message d'amour d'un papa à sa fille. Et c'est aussi une remise en question du papa sur sa vie. Enfin voilà, 1 million de minutes, c'est une belle leçon de vie, une petite piqûre de rappel sur l'importance de la famille, du temps qui passe et de la différence entre préparer sa vie et ses rêves et se lancer pour les vivre tout de suite. Pour nous mettre vraiment dans l'ambiance, le roman est ponctué de quelques photos de voyage.
Parce que tu as dit que c'était une histoire vraie, c'est
oui,
l'histoire
de
l'auteur. De l'auteur et de sa fille.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et il est donc disponible à Breteuil.
Oui, à Breteuil.
Et j'ai oublié de vous dire que le gang des vieux schnocks, vous le retrouvez à Breteuil, Verneuil et Bourthe.
Voilà.
Et je vous propose une petite pause musicale.
Sweet, I know I've been a real bad girl. I acting like sour milk all on the floor. It's your fault, you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place, it's my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet, I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet?
Venez d'écouter Gwen Stefani avec le titre Sweet Escape.
Il faut savoir que la lecture comporte énormément de bienfaits. Le savoir est une arme. Et le livre aussi. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut toujours avoir un livre sur soi. Plus vous traversez des zones dangereuses, plus je vous conseillerais d'avoir un grand livre. Tout ça pour dire que lire, c'est de la putain de balle. Après, je force personne à lire. Hein. Ne pas lire ou ne pas savoir lire, c'est pas grave. Tous les plus grands de ce monde n'ont pas tous cette faculté. Lisez un maximum de livres. Partagez-vous les bons plans des meilleurs livres.
En 1987 sort le film La Bamba, où Lou Diamond incarne Richie Valens, musicien latino de 17 ans, connu pour les chansons La Bamba et Doona à la fin des années 50. Très vite propulsé vedette, il part en tournée et voyage dans un bus mal chauffé, car il refuse de monter dans un avion, même si le trajet est plus long. Un soir, épuisé, le petit avion dans lequel il prend place avec Buddy Holly, déjà vedette, et Big Bopper, s'écrase peu après le décollage près de Clear Lake, au nord de l'Iowa, tuant sur le coup trois des musiciens les plus importants de l'époque et le pilote de 21 ans inexpérimenté. Richie avait une intuition, un pressentiment qu'il ne devait jamais prendre l'avion. Appelez ça comme vous voulez. Maintenant, revenons au roman que j'ai choisi aujourd'hui, La vie rêvée de Margaret, de Catherine Senter, aux éditions Bragelonne, enfin Milady. Margaret est une jeune femme qui vient de terminer des études de gestion et qui vient aussi de décrocher son premier job. Elle est fiancée à Chip, qui vient d'obtenir son brevet de pilote. Donc tout s'annonce pour le mieux pour elle. Et pour faire plaisir à Chip, le soir de la Saint-Valentin, Margaret accepte, bien qu'elle ait une peur viscérale de prendre l'avion, tout comme Richie Valens, elle accepte de faire un petit tour alors qu'elle le redoute tant. Pas à pas, toute la soirée défile sous nos yeux. La bourrasque, l'atterrissage raté, l'incendie. J'ai le frisson rien que de me remémorer ce roman. Nous ne saurons pas tout de suite ce qui arrive à Margaret, si ce n'est qu'il y a de quoi être secouée. Sa mère ne peut plus la regarder en face. Son fiancé fuit. Quelle est l'étendue de ses blessures? Quand elle s'en rendra compte, plus rien ne sera comme avant. Même si nous savons que c'est une fiction, nous sommes sous le choc. Ce roman est écrit à la première personne, mais le ton n'est pas larmoyant du tout. Margaret est une battante. Nous allons la suivre durant toute sa convalescence et même au-delà. Parce que, comme vous l'avez deviné, elle est emprisonnée dans son corps. L'entourage, par contre, réagira différemment. Sa mère sera maladroite, son père égal à lui-même. Et par contre, sa sœur aînée reviendra dans sa vie. Quant à Chip, après avoir noyé son chagrin dans l'alcool, il se montrera très très lâche. C'est un roman contemporain, riche en émotions, révélant de belles valeurs. C'est aussi le combat d'une vie, la reconstruction, voire le dépassement de soi, mais qui, je vous rassure, finit de façon étonnante, mais qui finit bien.
Alors méfions-nous de nos intuitions. Ne vous sentez surtout pas obligé de faire quelque chose qui ne vous inspire pas, mais alors pas du tout.
Ça donne envie de prendre l'avion.
Bah, c'est surtout le gars, enfin, il fait ça pour lui quand même. Ouais. Et il s'en va.
Pardon. Cheap. Ah, le fiancé, ah oui, il est très très lâche. Il se marie avec une autre, enfin, c'est... il l'abandonne. Il ne vient pas la voir à l'hôpital.
On ne va pas dire que c'est enfin, un
j'en salaud. Ai déjà cru, j'en ai déjà beaucoup ouais,
après,
dit.
Après, il y a toute la question d'accepter l'autre avec ses différences. Voilà, quand au départ, voilà, on ouais, l'a connu d'une certaine ouais. façon. Et je pense que la vie de couple est compliquée et complètement bouleversée aussi. C'est... Alors, je ne justifie pas du tout le côté lâche de Chip. Ne tombez pas dessus.
Ça avait un peu l'air.
Mais ce... Non, alors c'est non mais je pense que ça doit être super violent aussi pour l'autre, d'autant plus qu'il se sent responsable.
Tout à fait. Voilà.
Donc, regarder la personne dans les yeux, on ne dira pas ce qu'elle a, hein. Mais en se disant que, par exemple, elle a perdu l'usage de ses jambes ou je ne sais pas, et que c'est quand même de sa faute, ça doit être dur à vivre, je pense, au quotidien.
Ouais, mais justement, fuir, je trouve que non, c'est non. pas la bonne solution.
Non, bien sûr. Non.
Je pense que c'est horrible pour les deux, quoi.
C'est ça, ouais. Ça doit être assez compliqué. En tout cas, ça donne envie de lire.
Oui, oui, c'est Margaret qui raconte. Et c'est, même dans la gravité, ça reste... elle est battante, donc elle est... Oui. Voilà, elle a toujours le sourire. Ça se ressent dans l'écriture, quoi. C'est, mmh. Oui, c'est très enlevé, quand même.
Et ouais. Il est disponible à...
À Danville.
Danville.
Ouais. Ouais, je sais pas si...
Non, c'est pas Danville,
non, ça vous...
Disponible à Danville.
À Danville, voilà.
Sandrine.
Je suis là.
Sandrine a des tonnes de choses à vous dire aujourd'hui, elle est inspirée.
Non, en fait, je savais pas quoi choisir, donc je vous propose trois romans, mais je le fais rapide. Donc, toujours dans le thème de la reconstruction, mais là, c'est après la perte de proches. Je vous propose Les gens heureux boivent Élise du café.
Boivent du café.
Lise et boivent du café. Excusez-moi. Je sentais que ça n'allait pas du tout. Donc d'Agnès Martin Lugan. Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore l'épître dans la voiture au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane perd brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur qui continue de battre. Obstinément, douloureusement, inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Elle s'exile en Irlande, où elle apercevra la lumière au bout du tunnel. Donc c'est un roman qui est situé entre le journal de Bridget Jones et Love Story. Bridget Jones, j'ai du mal aujourd'hui, je m'excuse. En fait, je crois que c'est le jour férié, ça m'a...
Même si ça nous,
même si ça nous compte, ça fait rien, ça m'a perturbée. Donc, entre le journal de Bridget Jones et Love Story, l'histoire de Diane nous fait passer par toutes les émotions. C'est impossible de rester insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de cette jeune femme à qui la vie a tout pris et a tout repris. Et qui n'a d'autre choix que de faire avec. C'est un livre touchant qui ne laisse pas indifférent, même si on ne trouve pas mal de clichés quand même dans ce roman. C'est aussi à la première personne et un livre qui se lit très rapidement.
Oui, l'écriture est assez simple quand même.
Complètement, très simple.
Ouais, mais vous aurez vos petits mouchoirs à côté, hein, pas de soucis.
Et donc dispo à Breteuil et à Bourte.
Et à Danville.
Et à Danville.
Sinon, je vous propose aussi J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier. Là, c'est c'est après un accident, perte de mémoire, donc faire avec, changement de vie, mais non volontaire. Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie? Est-il possible de manger tout ce que l'on aime sans perdre 10 kilos? Comment trouver l'amour? Trop de doutes pour être heureuse, trop d'envie pour se contenter du banal. En plus, elle est un peu mythomane sur les bords. Jusqu'au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire, une mauvaise chute de poney. Elle redécouvre alors la vie avec ses yeux d'enfant et le comportement qui va avec. Sa naïveté retrouvée est une formidable source de rafraîchissement et de réflexion.
Ah, le poney, c'est dangereux.
Ah oui, le poney, il faut faire l'air.
C'est une enfant, c'est ça?
Non, c'est une adulte. Hein. C'est une adulte.
Sur un poney.
Mais c'est Gilles Le Gardinier.
Oui, ben oui.
Voilà.
Il y a un beau rire, là.
Mais non, non.
Elle est petite, hein, elle était petite aussi en même temps. Donc, qui n'a jamais oublié de... C'est pas je vous assure, dans le studio, c'est pas facile, là. Concentration. Qui n'a jamais rêvé de tout oublier pour recommencer? Attention, les scènes de ces comédies sont vécues par des non-professionnels et il est vivement conseillé de les reproduire chez vous. Gilles le gardinier confirme brillamment qu'il n'a pas son pareil pour allier le rire et l'émotion. D'ailleurs, ça fait bien rire mes copines.
C'est ça.
Et c'est incroyable comment il écrit à la manière d'une femme. Franchement. Un roman sans prise de tête, agréable à lire, facile à lire aussi.
Ouais.
Il est dispo à Ménil et à Bourthe. Et un petit dernier, c'est Le cœur d'une autre de Tatiana de Ronet. Là, c'est changement de vie suite à une greffe hein, du cœur, comme son nom l'indique. Bruce, un quadragénaire divorcé, célibataire endurci, un peu ours, un rien misogyne, est sauvé in extremis par une greffe cardiaque. Après l'opération, sa personnalité et son comportement, ses goûts changent radicalement. Bruce veut comprendre pourquoi. Il ignore tout du donneur, mais réussit à se procurer son identité. Vous l'aurez entendu dans le titre, le cœur d'une autre, il s'agit d'un cœur féminin, et pour un misogyne, la pilule est difficile à accepter de prime abord. L'écriture est souple, fluide, charmante, on s'attache au personnage principal, bien qu'il paraisse un poil détestable, et là je vous parle en tant que femme, on est curieux de son ressenti et de ce qu'il deviendra, même si parfois ce qu'il éprouve est digne de paranormal. Mais ça, ça n'engage que moi. Un court roman intéressant, agréable, toujours à la première personne. Voilà, donc sur le don d'organes, c'est sympa. Faut savoir quand même qu'aujourd'hui, la loi indique que nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus.
Voilà, et que vous devez vous le mentionner si vous ne souhaitez pas donner.
Mais c'est pas la peine. Donner.
Donner.
Et donc, Le cœur d'une autre est disponible à Bourthe et à Verneuil. C'est bien ça?
Oui. Oui, c'est ça.
C'est ça.
Voilà pour moi.
I want to.
Nous venons d'écouter Queen avec I Want to Break Free.
C'est que tu nous fais chier à lire, toi. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps.
Je te signale que ton père te parle.
Oui. Hein? Qui nous fait chier à lire tout le temps? Qui c'est quoi son. Ursonar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien?
C'est un empereur romain.
Ursonar, c'est un empereur romain?
Mais non, Adrien.
Oui, bon Dieu, hein, ça va, hein?
T'as qu'à répondre aussi.
Hein? Qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé? C'est ton Ursonar qui a taillé la haie? Bon, alors.
Et maintenant, on va parler d'un sujet de changement de vie, de réinsertion, la prison. Alors, je vais vous présenter une série qui est basée sur un livre autobiographique que normalement certaines personnes devraient connaître, Orange is the New Black. Donc le livre s'appelle Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison, qui a été écrit par Piper Kerman. Et la série a été produite par Netflix et a été créée en 2013. Donc, petit speech. Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours. Elles sont rattrapées par leur passé et plusieurs détenues qui, venues d'horizons divers, cohabitent dans cette société en vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la solidarité, mais surtout l'humour, subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières. Donc, petite explication du titre. Orange fait référence à la couleur de l'uniforme des nouveaux détenus dans les prisons américaines. Et l'expression... Nanana is the new black. En fait, c'est utilisé dans le domaine de l'habillement pour évoquer la dernière couleur tendance ou tout simplement la dernière chose qui est à la mode. Donc, cette série est reconnue pour être l'une des premières qui fut créée par Netflix à l'époque où c'est apparu. Et dans la plupart des épisodes, on va s'intéresser en fait à une détenue en particulier. On va revenir sur son passé et parfois comprendre ce qui l'a amené à se retrouver à la prison de Litchfield. Donc la série est un kaléidoscope de profils féminins en tout genre. On va avoir des durs, on va avoir des faibles, des habitués à la prison, les nouvelles qui viennent d'arriver, etc. Et on trouve aussi une farandole d'origine et de style de vie. Donc on va avoir le groupe des Noirs, le groupe des Latinas, le groupe des Blanches. On va avoir des Asiatiques, des Chrétiennes, des Musulmanes, des Juives, même des Wiccans, ou même encore une secte. J'en dirai pas plus parce qu'après, je déborderai sur les 8 saisons qui sont présentes sur Netflix. Donc on découvre grâce à la série une facette encore inconnue par le public d'une prison fédérale. Donc on sait déjà qu'à la base, il y a les cellules, une cuisine, une salle à manger, des sanitaires. Mais on découvre aussi le magasin où les détenus viennent se ravitailler, par exemple, en protection hygiénique, en dentifrice, en sucrerie, etc. On va avoir aussi les cellules d'isolement, le salon de coiffure, parce que oui, dans certaines prisons, on peut se faire belle. Le QHS, donc le quartier de haute sécurité où sont détenues les prisonnières les plus virulentes, si je puis dire. Et chaque personnage de la série est unique. Donc malgré les clans raciaux qui peuvent se former, ou encore les groupes de toxicomanes, parce que oui, on trouve beaucoup de toxicos en prison, au fil de la série, ces clans et ces groupes vont se briser, se reformer, changer du tout au tout, et parfois même s'unir pour ne faire qu'un face à une justice cruelle, parfois humiliante et violente, et ce, à travers les visages des gardiens, autant que des dirigeants de la prison, et parfois même bien au-delà. Donc au fil des saisons, on va se pencher sur des sujets assez graves comme l'avortement, le viol, le mouvement MeToo, par exemple, dans les dernières saisons. Dans les premières saisons, on va s'intéresser à la démence, les addictions, l'immigration. Alors, bien évidemment, tout ce que je suis en train de dire n'est pas forcément très très joyeux, mais on va conserver une grande part d'humour, on va adopter beaucoup de recul et surtout de la sensibilité à travers toutes ces histoires de vie qui... au final, pourrait arriver à n'importe qui. Comme dit précédemment, le passé est évoqué, le présent est brut de présence, et l'avenir de ces femmes est pour la plupart incertain. Mais qu'en est-il de celles qui sortent? Donc là, on arrive à l'aspect changement de vie, réinsertion. Une fois sorti de prison, comment on se reconstruit face à une société et une justice d'autant plus implacables qu'avant le délit et l'enfermement? Casier judiciaire, agent de probation, se réhabituer à la vie normale est aussi un très grand défi pour les ex-détenus. Et au fil de la série, certaines d'entre elles vont réussir à sortir ou du moins vont avoir purgé leur peine. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre elles auront beaucoup de mal à se réinsérer dans leur vie d'avant la prison. Donc les actrices ont évolué avec leurs personnages au fil des saisons et ayant un casting presque exclusivement féminin, cette série peut se vanter d'avoir mis en scène d'excellentes comédiennes. La série a reçu dès sa sortie d'ailleurs sur la plateforme d'excellentes critiques. Les sites comme Metacritic ou Rotten Tomatoes, qui est un site de commentaires et de critiques sur le cinéma et la TV, lui ont octroyé dès le début d'excellentes notes et la presse n'a pas perdu son temps en mettant en avant les actrices, la production et surtout la réalisation. Et pour finir, Orange is the New Black est aujourd'hui l'une des séries phares de Netflix.
Tu nous dis qu'il y a 8 saisons, ça traîne pas trop longueur ?
Alors, faut savoir...
Il y en a eu 7. Ok.
Alors ça traîne pas trop à longueur, disons qu'il y a certains épisodes qui sont un peu longs parce qu'on va avoir tendance à se réintéresser au passé de certaines détenues. On va revenir souvent sur les mêmes personnages qui, pour certains d'entre eux, n'auront pas une véritable évolution. Il va y avoir même parfois une dégradation de leur personnalité. À partir, je dirais, de la troisième saison, on va quitter l'habitude de la prison pour se heurter à... des événements un petit peu problématiques qui vont montrer que la coalition au sein d'une prison est quand même le plus important. Okay. Donc ça bouge au fur et à mesure.
Donc ça bouge.
Ouais.
Okay,
ouais.
Bah chouette.
Et c'est une série qui peut quand même se vanter d'avoir un casting très original et réaliste.
Oui, tout à fait.
Avec vraiment toutes les origines des vraies femmes, avec des vraies formes. Et ça fait du bien aussi de voir une série comme ça.
Oui.
Alors, moi, je vais vous parler aussi de la prison avec le nouveau roman de Natacha Apana, Le ciel par-dessus le toit. Donc, Natacha Apana est une écrivaine née à l'île Maurice. Elle a écrit plusieurs essais et elle écrit seulement en 2003 son tout premier roman qui est Les rochers de poudre d'or, qui parle de l'histoire des engagés indiens et qui lui vaut le prix RFO du livre 2003. Ensuite, il y a Le dernier frère en 2007, qui a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix du roman FNAC 2007, et son roman de 2016, Tropique de la violence, issu de l'expérience de son séjour à Mayotte, où elle découvre une jeunesse qui est complètement à la dérive, et qui remporte 15 prix littéraires, dont le tout premier Fémina des lycéens. Donc voilà, déjà on est sur une auteure qui pèse un peu dans le game, quoi. Donc son dernier roman, Le ciel par-dessus le toit, est sorti fin août 2019 et il a été sélectionné dans plusieurs listes de prix pour cette année, mais finalement il a rien eu. Donc on y découvre l'histoire de Lou, avec un P. C'est un jeune homme mineur qui n'a pas le permis et qui s'est fait arrêter alors qu'il avait pris la voiture de sa mère pour aller voir sa sœur Paloma. Donc son trajet de près de 7 heures de route quand même a causé un accident. Au début, on ne sait pas trop quelles ont été les conséquences. Mais suite à cela, Lou va connaître une courte expérience de la prison. Donc en fait, le narrateur est complètement extérieur et il raconte l'histoire par bribes et par la vision des trois personnages principaux. Donc il y a Lou, sa sœur Paloma et leur mère Phoenix, qui pendant les premiers chapitres avait son vrai prénom, donc Eliette. Ça fait moins rêver. Donc dès le début, en fait, la mère apparaît plus que Lou comme le personnage principal. Elle est décrite comme une femme belle, magnifique. Il y a absolument tous les adjectifs synonymes de belle qui sont employés. Mais à côté de ça, elle est glaciale. Donc les premiers chapitres s'intéressent à elle et son enfance. Et surtout, pourquoi elle apparaît si indifférente, voire insensible aux yeux de ses enfants. Le narrateur retrace en fait certains moments clés, on va dire, de l'enfance de Phoenix, et notamment ce qui a déclenché un changement de comportement quand elle avait 11 ans, et un autre incident quand elle avait 16 ans, qui va aussi être un élément de réponse à son changement de prénom. Donc entre les toutes premières lignes du texte sur Lou, qui est dans un fourgon pour aller en prison, et son arrivée à la prison, il y a pas mal de chapitres quand même qui s'écoulent et qui expliquent le passé de sa mère, donc comme je disais, mais aussi la raison du départ de sa sœur Paloma et les facettes de Lou qu'on ne connaît pas jusqu'ici. Donc la froideur des lieux de la prison et des personnes qui entourent Lou dans la prison semble vite le forcer à avoir une attitude un peu moins enfantine, moins fragile, pour essayer de surpasser la peur. Donc le seul moment où Lou prend la parole, c'est assez étonnant parce qu'en fait c'est à la fin, c'est dans les dernières pages. Et on découvre un garçon de 17 ans qui est assez étrange. C'est un mot qui est aussi beaucoup répété quand on parle de lui dans le roman. Et qui s'exprime de façon assez inattendue. Parce que c'est un discours assez enfantin, assez saccadé. Donc c'est assez étonnant. Et en plus du ressenti de Lou, le narrateur nous parle aussi de ce que c'est pour l'entourage, notamment la famille proche, d'avoir quelqu'un en prison. Donc dans le roman, c'est surtout par rapport à Paloma, donc la sœur et sa mère Phoenix. En fait, elles se sentent toutes les deux coupables pour différentes raisons. Et on voit qu'elles essayent de se... Enfin, elles se torturent à imaginer comment lui, il s'en sort là-bas, en fait. Donc la prison, c'est le lieu au sens propre où Lou va passer plusieurs jours. Mais c'est aussi une métaphore puisque les autres personnages féminins se retrouvent malgré elles dans des prisons. Elles sont prisonnières de leurs sentiments, notamment de culpabilité, de peur et aussi de colère. Entre tous les personnages, en fait, il y a vraiment de la rancœur qui se ressent. Donc c'est un roman qui est assez intéressant parce qu'il pose la question des relations parents-enfants et de l'éducation notamment qui influence les choix des enfants. Donc c'est vraiment, il y a des bonnes questions de poser. Donc en définitive, c'est quand même un bon roman qui traite d'un sujet intéressant avec une écriture qui peut paraître un petit peu particulière. Après, à côté de ça, elle est quand même simple à comprendre, mais il y a des phrases qui sont quand même un peu longues. J'ai envie de te dire, quand ça fait 15 lignes, c'est un peu dur. Cependant, c'est quand même pas une écriture conventionnelle parce que le lecteur connaît vraiment que certains moments de la vie des personnages et notamment Phoenix. En fait, le personnage qu'on connaît le moins à la fin du roman, ça reste Lou.
Ça reste Lou.
Donc c'est assez étrange. Donc voilà, l'œuvre Le ciel par-dessus le toit par Natacha Apana est disponible à Verneuil et à Breteuil
et
à Bourthe. Et je vous le conseille vivement. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, taking slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We'll be right back.
Vous venez d'écouter Evans de 21 Pilots.
Pourquoi tu portes des lunettes?
Pour lire.
Pour lire?
Tu sais lire.
Tu sais lire, toi?
Alors, dans cette dernière partie, on n'a pas choisi le thème de la reconstruction, la prison, etc. par hasard, vous vous doutez.
Bien sûr que
donc,
il y a une logique quand même.
Il y a toujours une logique. C'est pour vous annoncer nos prochaines animations et notamment les projections de films qui ont lieu dans le cadre du mois du film documentaire. Donc à Breteuil, on vous emmènera dans la ferme de Moyenbrie, qui est une structure d'insertion singulière qui propose un logement, un travail, un accompagnement social et une vie communautaire riche et exigeante. Les personnes placées à la ferme ne sont plus en prison, mais elles ne sont pas pour autant en liberté. Ayant obtenu un aménagement. Oh là, c'est vraiment dur aujourd'hui. Hein.
Aménagement. En fait, je pense qu'il y a un virus dans l'émission.
De bégaiement. voilà. Un aménagement de leur peine. Sous le régime du placement extérieur, elles ne peuvent pas sortir librement du domaine agricole et sont pour certaines sous bracelet électronique. Donc, entourés de salariés et de bénévoles, ces hommes, parce qu'on suit essentiellement des hommes, tentent de se reconstruire et de rebâtir un véritable projet de vie. Alors cette année encore, on a choisi de vous présenter un film de société avec un sujet qui parle à tous. Comment se reconstruire et recommencer sa vie après avoir été incarcéré. C'est un film poignant et touchant où l'on mesure les traces que la prison peut laisser sur les hommes. La projection aura lieu à la médiathèque de Breteuil, à vos agendas, le samedi 23 novembre à 17h, en présence de Nicolas Ferrand, le réalisateur.
Voilà. Et c'est gratuit.
Oui,
donc
gratuit.
Venez. Sur inscription?
Pas nécessairement. Disons que jusque-là, on n'a jamais rempli complètement la salle. On espère cette année remplir la salle. Ce serait chouette.
Alors, à Verneuil, donc toujours dans le mois du film documentaire, il y aura la projection du film Des bobines et des hommes de Charlotte Pouche le vendredi 15 novembre à 19h. Donc, c'est gratuit aussi. Donc le film, alors là on n'est pas dans l'incarcération, on est plutôt sur un film social et essayer de garder justement sa vie plutôt, puisque c'est un film qui traite de l'usine textile Belmaille, dont le patron annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire de l'entreprise. Et en fait la réalisatrice suit pendant plusieurs mois les hommes qui vont affronter la réalité, puisqu'en fait le patron s'en va lâchement. Et laisse tous ses employés alors que la boîte est en train de couler, en fait.
Donc, les rats quittent le navire.
C'est, ben, tout adore. À fait, voilà. Donc non, c'est vraiment un film social très touchant. Et on a vraiment envie voilà, qu'ils y arrivent. Quoi. Donc c'est, voilà, ce sera le 15 novembre à 19h à Verneuil. Alors ensuite...
Toujours à Verneuil.
Toujours à Verneuil.
Oh là là, c'est
mais il s'en passe des choses à Verneuil. Mais il s'en passe. À partir du vendredi 26 novembre et jusqu'au samedi 7 décembre, la médiathèque vous propose des ventes de livres en rose et autres créations au profit du Téléthon. Donc voilà, venez acheter des magnifiques créations. On va pas vous en dire plus parce que franchement, on a bien travaillé dessus. On n'a pas envie de spoiler.
Elles sont très très réussies.
C'est... Oui, c'est ça. C'est des créations magnifiques.
Créations faites main, originales, toutes.
C'est ça.
Ouais. Donc venez.
Petites idées cadeaux pour Noël éventuellement.
Tout à fait.
Éventuellement.
Éventuellement.
Alors en parlant d'idées cadeaux, à Bourte, si vous voulez déposer des jouets neufs dans le cadre du Père Noël est un rocker au silo au mois de décembre, j'ai plus la date exacte, je sens qu'on va me la donner.
Le 22 décembre, si l'affiche que je vois devant moi
est bien, elle est dans mon dos, donc je ne voyais pas. Très bien. Donc le 22 décembre, le Père Noël est un rocker au silo, on s'associe avec la MJC pour récupérer des jouets. Donc, neuf, si possible. Et ça vous fait l'entrée gratuite.
Et ça, c'est cool. Ouais. Mais tout est gratuit, donc venez,
ouais,
profitez-en.
Venez, donnez, partagez.
Partagez.
Chantez. Lisez, surtout.
C'est important. C'est important. Oui, tout à fait.
C'est gratuit dans vos médiathèques, n'oubliez pas.
C'est pour ça que c'est aussi bien, les médiathèques. Tout est gratuit.
C'est mais cool, oui, la médiathèque, quand même. On a un métier formidable, les filles.
Exactement. On devrait y venir plus souvent, tiens.
Voilà, voilà. Sinon, tu peux peut-être nous mettre quelque chose pour conclure. Nous attendons le technicien, nous tourne le dos, donc forcément, il ne voit pas qu'on a terminé.
Merci qui? Les livres.
livres. Les livres, les livres, les livres.
Bon, trêve de plaisanterie. On a choisi des sujets pas très joyeux cette fois-ci. Mais ça nous laisse quand même place à l'espoir. En tout cas, c'est promis, pour la prochaine, on vous prépare quelque chose de plus joyeux. Si vous êtes en panne d'idées cadeaux pour Noël, venez écouter et faire le plein d'idées le 10 décembre. Et on vous souhaite tous
une bonne journée.
Au revoir.
Bonjour.
Au revoir.
C'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider? If I could take you up and boom, boom, boosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
C'est pour ça que je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.